Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Samson, le juge faible. Juges, chapitre 13, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Amen. Je rappelle le contexte de ce livre, le livre des Juges, qui est particulier puisque nous retrouvons le peuple d'Israël qui est sans cesse en déclin spirituel. Et on retrouve une phrase typique de ce livre qu'on a lu au verset 1er, c'est « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Voilà la situation, voilà la réalité. Et à chaque fois, le peuple se repent, Dieu suscite un juge, mais il retombe dans ses mauvais travers. Donc, ça nous enseigne à rester fidèle à Dieu et ne pas retourner en arrière. Alors, comme le peuple a fait ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel a suscité un ennemi à Israël, en l'occurrence ici, les Philistins. Le but toutefois est positif, car Dieu voulait qu'au travers des Philistins, le peuple de Dieu se tourne vers l'Éternel et se repente. C'est-à-dire que certaines épreuves sont permises par Dieu pour nous reprendre, pour nous corriger et pour nous faire revenir dans la voie du Seigneur. En fait, ces épreuves ont un rôle pédagogique, c'est un rôle d'enseignement. L'apôtre Paul lui-même a subi une épreuve dans sa chair, puisqu'il dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair ». Alors cette écharde a suscité beaucoup de questions, on s'est demandé « Mais quelle sorte d'écharde ?» Était-ce une maladie? Alors, les commentateurs ont évalué plus de 120 maladies possibles. Mais finalement, le texte ne dit pas que c'est une maladie, ni quelle maladie c'était. Mais quand il dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffloter, c'est-à-dire pour me frapper. » Cet ange de Satan a, en toute simplicité, quand on lit le texte, on comprend que c'est un mauvais esprit, que Dieu a permis donc un ennemi, un mauvais esprit, de limiter Paul dans sa course. Mais Paul considère que cet ennemi invisible qui le harcèle, il a un but positif, il dit « pour que je ne sois pas enflé d'orgueil ». Il m'a été mis une écharde dans la chair. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pourquoi? Parce que Paul a eu accès au ciel. Il est monté au ciel et il a vu des réalités spirituelles qu'on ne peut pas rapporter sur la terre. Et il dit, à cause de l'excellence des révélations que j'ai eues, et pour me maintenir dans l'humilité, il y a eu cet ange de Satan. Et donc cet ange de Satan avait quand même un but positif pour Paul, parce que si Paul était tombé dans l'orgueil, ça aurait été une catastrophe pour l'œuvre de Dieu. Et Paul a compris que même dans sa faiblesse, malgré cette souffrance qu'il avait, on ne sait pas ce que c'était, mais c'était donc cet ennemi, cet ange de Satan qui le faisait souffrir. eh bien, ça le gardait dans l'humilité et il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que sa force n'était pas dans ses capacités, mais en Dieu. Donc les Philistins ici sont un instrument de Dieu pour ramener le peuple sur le bon chemin. Qui sont les Philistins? On sait que ce nom, en fait, signifie étymologiquement « immigrant ». Selon les spécialistes, ils sont originaires de la Crète et ils ont débarqué en Canaan, dans le sud-ouest de Canaan exactement, plus précisément dans la région de Gaza. Donc le sud-ouest de Canaan. Ce peuple a toujours été un ennemi d'Israël, et particulièrement si vous lisez les livres de 1 et 2 Samuel, vous verrez qu'ils étaient toujours ennemis des rois d'Israël. D'ailleurs, le géant Goliath était un Philistin, de ce peuple ennemi d'Israël. Le nom Philistin, d'ailleurs, a donné le nom Palestine. C'est les Romains qui ont attribué ce nom à cette région quand ils ont découpé le bassin méditerranéen. Ils ont nommé Syrie-Palestine toute la région de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, vous trouverez à la fin de votre Bible, des fois, des cartes qui mettent le titre « Palestine au temps de Jésus ». Sauf que le nom Palestine, si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous ne le trouverez pas dans le Nouveau Testament. Ce nom Palestine n'est pas dans la Bible. Ce nom Palestine, il vient des païens qui ont appelé cette région ainsi pendant une période. Les hommes ont changé le nom de cette terre, mais si vous lisez le Nouveau Testament, comment est-ce que Dieu appelle cette région? Eh bien, vous verrez qu'il l'appelle la terre d'Israël, Israël ou la Judée. Mais vous ne verrez pas le mot Palestine. Ça veut dire que les hommes ont pu changer le nom de cette région, mais pour Dieu, c'était toujours le pays d'Israël. Et d'ailleurs, il y a un empereur romain qui a voulu même changer le nom de Jérusalem, parce qu'à l'époque, il voulait enlever toute référence au peuple juif, peuple d'Israël. Et donc, il l'a appelé Aelia Capitolina. C'était l'empereur Adrien en 135 après Jésus-Christ. L'idée, c'était de faire disparaître le nom de Jérusalem. Et il voulait mettre un nom païen en référence à un dieu, le dieu qu'il y avait à Rome. Voilà ce que voulait faire le monde. Et ainsi, il espérait faire disparaître le nom de la ville sainte. Déjà, on avait enlevé le nom d'Israël, et maintenant, on enlevait le nom de Jérusalem. Mais Jérusalem a retrouvé son nom d'origine avec un autre empereur qui s'appelle Constantin au 4e siècle qui a adopté le christianisme comme religion d'État et il a redonné son nom à Jérusalem. Comme quoi les hommes essayent toujours d'enlever le nom de Dieu ou des noms que Dieu a établis, mais Dieu a permis que ça soit replacé. D'ailleurs, les Palestiniens qui sont issus des Philistins existent toujours aujourd'hui. Et si vous avez remarqué, ils sont toujours ennemis du peuple d'Israël. Ça fait plus que 2000 ans, que c'est même plus, puisque là on est encore avant Jésus-Christ, plus de 3000 ans que la situation est comme celle-ci. Donc ici bien, ce sont les Philistins de l'époque qui étaient ennemis d'Israël. Et le peuple d'Israël a subi la domination des Philistins, qui étaient pourtant sur le bord du pays, qui étaient dans une enclave, mais ils arrivaient à s'incruster en Canaan de plus en plus, dans le pays d'Israël. Et donc, voilà la conséquence d'un peuple qui ne veut pas se repentir, qui marche dans la désobéissance. Eh bien, ils sont sous la domination d'un ennemi. Et c'est pareil pour nous. Si nous nous entêtons, si nous continuons dans le péché, si nous nous éloignons de Dieu, bien on finira par devenir esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves de l'adversaire. Le manque de confession, ça existe chez les croyants. On a l'exemple de David, qui était pourtant très proche du Seigneur, homme selon le cœur de Dieu, qui a péché lamentablement avec Bathsheba et qui refusait de se repentir. Et le psaume 32, il exprime ceci, verset 3, « Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je ne confessais pas mon péché, tant que je gardais ma rébellion à l'égard de Dieu, mes os se consumaient, voilà les conséquences, donc on ne veut pas se confesser, eh bien la souffrance est là, les os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Et oui, il sent bien, David, que Dieu ne veut pas laisser son serviteur dans le manque de repentance. Il veut qu'il se repente, alors il va agir sur lui en étant pesant. Sa main s'appesantit. Dieu suscitait des ennemis, il y avait l'opposition, mais c'était pour l'amener à la repentance. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voilà la réalité spirituelle, frères et sœurs, de celui qui ne veut pas se repentir, de celui qui résiste à Dieu. Eh bien, il ne pourra pas s'épanouir, il ne sera pas heureux, il ne sera pas béni. Quand le peuple se repent finalement, le peuple va susciter un nouveau juge. Ici, en l'occurrence, il s'appellera Samson. On a déjà vu trois juges. En fait, on regarde les quatre principaux juges. Les trois premiers, c'était Déborah. Déborah qui avait comme ennemi le roi de Jabin, c'était l'ennemi du peuple de Dieu de l'époque. Déborah qui est une exception, qui est la seule femme juge et la seule femme en position de responsable que l'on trouve dans cette période. Ensuite, Gédéon qui a combattu les Madianites, un autre peuple encore ennemi du peuple de Dieu. Et puis, on a parlé de Jephté, qui lui avait comme ennemi les Ammonites. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est un peuple différent. Le roi de Jabin, les Madianites, les Ammonites, maintenant c'est les Philistins. Tout ça, ce sont des ennemis du peuple de Dieu qui se lèvent à chaque fois que le peuple s'égare. Le premier point que je voulais voir ici, c'est la naissance de Samson. La naissance de Samson, puisque la femme de Manoac à l'époque était stérile. Et j'ai remarqué que dans la Bible, Dieu utilise souvent des femmes stériles pour les faire enfanter et ces enfants vont servir le Seigneur. On rappelle qu'à l'époque, la stérilité était vécue comme une malédiction. C'était comme une punition, ils pensaient que c'était une punition divine. Et même, c'était tellement grave pour l'époque que c'était même un sujet de répudiation. Si la femme était stérile, elle pouvait être répudiée. Et c'était un problème sérieux parce que ça remettait en question la survie même du couple, parce qu'à l'époque, c'était les enfants qui allaient subvenir aux parents dans leurs vieux jours. Et donc, s'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas d'assurance d'avenir, de vieillesse. On pourrait dire assurance vieillesse aujourd'hui. Il n'y avait pas d'espérance de vieillesse. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'enfants, c'était très, très difficile. Et puis, il y avait une autre raison, c'est qu'on attendait le Messie et les femmes espéraient toutes pouvoir enfanter le Messie. Et donc, il y avait cette espérance de la venue du Messie qui augmentait tout cela. Le désir d'avoir des enfants pour une femme stérile était si fort que parfois même elle passait par leur servante, comme Agar. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants, elle est passée par Agar, sa servante, parce qu'elle voulait absolument avoir un enfant, surtout pour accomplir la promesse de Dieu. Or, on sait que ça n'a pas abouti, puisque Ismaël est devenu aussi un ennemi du peuple de Dieu. Mais, même si à l'époque, il n'y avait aucune solution médicale, on sait qu'il y avait deux possibilités. Soit vous acceptiez votre situation en disant, ben voilà, c'est mon lot, je suis stérile, je n'arriverai jamais à enfanter, et puis vous vous arrêtez là. Ou soit vous aviez une démarche de foi, vous criez vers Dieu, et vous vous attendez à l'intervention du Seigneur. Un petit peu comme Anne. Anne qui était aussi d'ailleurs stérile et qui dans le temple faisait monter vers Dieu sa prière en supplication, en pleurs, si bien que Élie, le sacrificateur, croyait qu'elle était ivre en fait. Non, elle priait, elle répandait son cœur devant Dieu parce qu'elle suppliait Dieu d'avoir un enfant. Et ça, c'est la démarche de foi. C'est la démarche du croyant. On s'attend au miracle. Alors, ce qui est un problème pour nous aujourd'hui, et peut-être ici c'est le cas de la stérilité, c'était impossible à l'époque, il n'y avait pas de solution. Mais est-ce que pour Dieu c'est un problème? Non, c'est un problème pour nous, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu donne des enfants à la femme qui est stérile, dans le psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'Éternel. Et remarquez qu'il dit au milieu de ses enfants, ça veut dire qu'il a donné pas un enfant, mais des enfants à la femme stérile. Alors si vous regardez la Bible, vous avez Sarah, vous avez Rebecca, Rachel, Anne, On ne peut pas toutes les nommer, mais les femmes stériles qui ont enfanté, c'est énorme. Dans tous les cas, il n'y avait aucun espoir à l'époque, mais Dieu, à chaque fois, a donné la vie à ceux qui étaient morts. Alors c'est peut-être pour nous une situation sans espoir ou un rêve mort, un projet qui est avorté, tout semble terminé, mais Dieu peut redonner vie à quelque chose qui est mort. Voilà ce que nous montre la parole de Dieu, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot et il est tout puissant pour agir. Faisons-lui confiance. Comme ces femmes stériles, attendons-nous à l'intervention de Dieu, malgré qu'on nous dit, la science vous dit, voilà, c'est pas possible, vous pourrez pas y arriver. Eh bien, nous voulons faire confiance à Dieu. Et l'ange de l'Éternel arrive donc dans cette situation. Il apparaît à la femme de Manoac. Alors l'ange de l'Éternel, il apparaît quelques fois comme ça dans l'Ancien Testament. On sait que c'est un ange particulier qui apparaît de temps en temps. Et surtout, il représente Dieu et il donne des paroles de Dieu. Alors par exemple, Exode 23:20, je voulais vous montrer un exemple pour vous montrer la particularité de cet ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce que il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Vous voyez qu'il a des particularités tout à fait proches de celles de Dieu parce qu'il est capable de pardonner ou de ne pas pardonner les péchés. La présence de Dieu est en lui. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. C'est le seul ange qui a ces caractéristiques. Et depuis les pères de l'Église jusqu'aux réformateurs, jusqu'à aujourd'hui, les commentateurs estiment que cet ange à part, c'était une figure de Christ avant l'incarnation. On appelle ça une théophanie ou christophanie. Le Fils, donc, s'est manifesté à plusieurs reprises et on le voit par l'ange de l'Éternel. L'ange connaît parfaitement la situation de la femme. Et c'est vrai, il lui dit, voilà, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. C'est la situation, on va dire, que tout le monde peut voir. C'est physique. Mais il n'est pas là pour la juger. Cet ange, il vient avec une parole de Dieu et une promesse sur la vie de cette femme. Il lui dit, tu enfanteras un fils. Et c'est là où la parole de Dieu prend toute son importance. On peut très bien voir la difficulté et dire, voilà, c'est stérile, c'est mort, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a une parole de Dieu qui vient nous dire, la vie arrive, le miracle va se produire. Fais-moi confiance. Donc, Dieu va créer de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, vous êtes dans une situation désespérée, vous avez frappé à toutes les portes sans solution, sans espoir. Mais j'aimerais rappeler de la part du Seigneur qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, même si humainement, il n'y a plus d'espoir. Donc, nous ne devons pas regarder à vue humaine sur la situation, mais regardez encore les possibilités que Dieu a en réserve pour ses enfants. Alors ne dites pas c'est trop tard comme c'est arrivé à Marthe, comme Jésus tardait à venir et Lazare était déjà mort. Et elle dit mais c'est trop tard, si tu étais arrivé plus tôt. Ne dites pas c'est trop tard, parce qu'avec Dieu c'est jamais trop tard. Même si au point de vue humain c'est trop tard, eh bien Jésus lui dit plutôt tu devrais dire si je crois je verrai la gloire de Dieu. C'est ça que nous devrions dire. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Mais ne dites pas à Dieu, c'est trop tard. Ça, c'est le mot humain. Et la femme reçoit une consigne très précise. Elle doit s'abstenir de toute boisson enivrante, donc le vin, les liqueurs fortes, toutes les choses qui peuvent saouler. Pourquoi ? Parce que ici, nous avons une référence à ce qu'on appelle le naziréat dans l'Ancien Testament. Le naziréat, c'était un vœu de se mettre à part pour Dieu, de se consacrer à Dieu et de ne pas boire d'alcool pendant cette période-là et de ne pas se couper les cheveux. Vous trouvez ça dans Nombre 6, verset 2. C'est ce type de vœu que Dieu va demander pour cet enfant. Et donc, il s'adresse à la femme. Nombre 6, verset 2, par exemple, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras » Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Et pour les cheveux, c'est au verset 5, pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Donc dans la parole de l'ange de l'Éternel, vous avez toutes les références à ce vœu de consécration, de mise à part pour Dieu. Et l'enfant qui devait naître devait être consacré à Dieu et réservé pour le service de Dieu, mis à part. Et ça, ça nous parle à nous aujourd'hui que nous devons aussi nous consacrer à Dieu pour son service et faire sa volonté, et nous consacrer à Dieu volontairement. C'est Paul qui le dit dans Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, on peut dire frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà la consécration que Dieu attend de nous, c'est d'offrir nos corps en sacrifice vivant. C'est une sorte de naziréat spirituel, c'est une consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors Paul nous recommande de nous consacrer entièrement à son service, au Seigneur, et ça c'est une décision personnelle à prendre. Nous ne devons pas céder à la pression de l'influence du monde qui est constante, parce que le monde et sa mentalité, ben voilà, ils influencent pour faire des mauvais choix et nous éloigner de Dieu. On sait que le monde est régi par le prince de la puissance de l'air qui s'appelle Satan ou le diable, et l'air de ce monde est très pollué. Alors c'est vrai sur le plan physique, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui disent « attention, parce que la pollution, l'air il devient irrespirable, d'ailleurs des fois il faut ralentir, des fois ils interdisent la circulation dans certaines villes parce que c'est trop pollué, et ça on le sait parce que c'est analysé, vous voyez. Mais il y a une autre pollution qu'on ne voit pas, qui est spirituelle, et notre monde, on peut dire qu'il est de plus en plus pollué sur le plan spirituel, parce que ben, il y a le prince de la puissance de l'air qui émet sur les ondes, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il est là, il est présent partout, et il diffuse sa pensée. Donc ne vous laissez pas contaminer par la pollution spirituelle du prince de la puissance de l'air, gardez votre esprit connecté avec l'esprit de Dieu, c'est comme ça que vous serez gardé pur dans votre esprit, que vos pensées seront renouvelées, que votre intelligence sera vivifiée. C'est la communion avec Dieu, c'est la connexion avec Christ qui va vous transformer de l'intérieur. 2 Corinthiens 3,18 « Nous tous, dont le visage découvert, ici c'est les chrétiens, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ça c'est le plan de Dieu et pour ça, il nous faut être connectés avec le Saint-Esprit, avec Dieu, parce que sinon nous ne serons pas transformés de gloire en gloire. Sinon, nous subissons l'influence de la pollution de l'air de ce monde spirituellement mauvais, et ben, on va être transformés dans une autre image, mais pas l'image de Christ. Alors, il y a des promesses sur la vie de Samson, il n'est pas encore né, mais c'est déjà annoncé que Samson, c'est lui qui délivrera le peuple des Philistins. Il y a déjà des promesses de victoire sur sa vie. Ça veut dire que Dieu a une destinée pour chacun de nous et il a des promesses sur notre vie, ces promesses, des promesses de bénédiction et de grâce. Il nous a appelés des ténèbres à rentrer dans sa lumière pour que nous formions un peuple pour sa gloire. Ça, c'est les promesses de Dieu. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, ça c'est l'Église de Christ, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des sacrificateurs qui sont à la fois sacrificateurs et rois, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà d'où nous venons. On était perdus dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière de Dieu. Il y a des promesses sur notre vie. Les promesses que nous ne sommes pas appelés à mourir dans les ténèbres, à mourir dans nos péchés, mais à vivre dans la lumière et dans la présence de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc tout ça, ce sont les promesses de Dieu sur ses enfants, sur son peuple et sur nous. Donc le plan de Dieu, regardez bien le plan de Dieu sur Samson, il était parfait. Il devait être consacré à Dieu depuis sa naissance jusqu'à sa mort, dit le texte, donc c'était toute sa vie. Mais on sait que Samson, si on connaît un petit peu la suite, on sait que Samson n'a pas eu une vie dans les voies du Seigneur, tout le temps. Il s'est bien éloigné de Dieu dans ses choix, et Samson n'a pas toujours fait ce qui plaisait au Seigneur. Donc nous avons une responsabilité, c'est qu'on a été appelé, mais nous devons nous maintenir dans les voies de Dieu. Et ce n'est pas le seul Samson. On a pas mal d'exemples dans la parole qui avaient un appel sur leur vie, qui avaient des promesses de Dieu claires pour eux et leur descendance, mais qui n'ont pas respecté les conditions. Je pense à Saül, dans 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. » Et regardez quel était le plan original de l'Éternel sur Saül. « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Ça, c'était quand même le plan de Dieu pour Saül. « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc si on revient en arrière, on voit que sur Saül, il y avait quand même une promesse de Dieu, qu'il était appelé à régner sur Israël, mais non seulement lui, mais aussi sa descendance, son fils Jonathan, devait régner à la suite de Saül, et c'était prévu, en tout cas comme ça à l'origine. Mais Saül n'a pas respecté les conditions de Dieu. Il était appelé à régner, oui, son fils aussi après lui, oui, mais il a tout perdu, c'est la dernière phrase du verset, parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Il a perdu les promesses. Ça veut dire que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses qui sont conditionnelles. Ça, on oublie souvent de le mentionner. On voit des promesses et on croit qu'elles vont s'accomplir à 100%. Oui, elles vont s'accomplir si nous sommes fidèles au Seigneur. Mais si, comme Saül ou comme, on va le voir pour Samson, qui va dégénérer, qui va s'éloigner de Dieu, bien, la promesse, en fait, est conditionnelle. Elle ne se réalisera que dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes sérieux et nous sommes fidèles. Maintenant, on arrive au verset 24. C'est le deuxième point, c'est le miracle de la naissance de Samson. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané, Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Le nom de Samson, d'abord, dans son étymologie, signifie petit soleil. Donc il était appelé à briller, à être une lumière dans ce monde, à donner un exemple. C'était ça qu'il aurait dû faire. Il a été fidèle à Dieu, d'ailleurs, dans les premières années de sa vie, puisque l'Éternel le bénit, il a grandi, on voit qu'il a l'Esprit sur lui, on voit que dans les premières années de sa vie, il a été fidèle au Seigneur. Donc Dieu l'a béni parce que Dieu honore ce qu'il honore. Et nous devons toujours faire passer les intérêts de Dieu avant nos propres intérêts. Ensuite, on voit l'action de l'Esprit dans ce texte. L'Esprit commença à l'agiter. Alors d'autres versions disent « commença » ou le poussa à l'action. L'Esprit le poussa à l'action. Et ça nous parle que le Saint-Esprit qui vient sur nous nous pousse à l'action et pas à rester oisif. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous voyez l'action, c'est le témoignage, non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Esprit vient, non pas pour que nous soyons oisifs, mais pour que nous passions à l'action. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas rester attentiste, mais il va se mettre au service de Dieu et faire sa volonté. Et le troisième point, c'est maintenant la faiblesse de Samson, au chapitre 14 et au verset 1er, jusqu'au verset 4. « Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors on voit ici clairement que Samson a une faiblesse pour les femmes. Et ici, ça sera la première, mais il y en a d'autres, malheureusement, et ça va continuer. Une femme parmi les filles des Philistins, ça c'est pas une précision anodine, c'est une précision importante parce que les Philistins, c'est des ennemis du peuple de Dieu. Et Samson, c'est vraiment l'image du croyant qui marche par la vue complètement et qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Un petit peu comme Lot avant lui, dans Genèse 13, verset 10, quand il était question de se séparer d'Abraham, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ah oui, il y a Sodome et Gomorre, mais lui, il voit la plaine du Jourdain. Et il va marcher par sa vue. Et il va aller dans Sodome et Gomorre. Et si vous marchez par la vue, immanquablement, vous allez faire comme Lot ou comme Samson, c'est-à-dire des choix qui ne sont pas selon l'Esprit de Dieu. Et finalement, vous ne pourrez pas aller loin pour le Seigneur. Parce que Dieu ne nous demande pas une marche par la vue, il nous dit de marcher par la foi et l'obéissance à sa parole. C'est autre chose. Alors le diable sait comment utiliser la vue. Rappelez-vous comment le péché est entré dans le monde. La Bible dit que Ève vit, encore une fois, vit. Elle vit que l'arbre était bon. Encore une fois, la vue. Donc, depuis l'origine des temps, en fait, le diable, il utilise la vue pour tenter, pour séduire, pour égarer. Et immanquablement, il revient là-dessus. Et si vous le remarquez aujourd'hui, plus que dans tous les temps de l'histoire du passé, on est dans une société audiovisuelle, où le visuel, l'audio, c'est partout et permanent. Et on voit que Satan règne en maître sur les médias, sur tout ce qui est audiovisuel. Il capte l'esprit des gens par l'image et le son. C'est ça l'audiovisuel, l'image et le son. Et sa voix est largement diffusée par ses canaux. Et rappelez-vous la voix, la parole de Satan à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Une voix de doute, une voix de remise en question sur Dieu. Si bien même qu'une émission chrétienne arrive à la télévision, peut-être une émission qui va parler des Hébreux, une émission qui va parler sur le peuple d'Israël, eh bien petit à petit, dans cette émission, ils vont parler de la parole de Dieu, mais ils vont mettre en doute ce qui a été écrit. Et voilà, on commence à « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc, attention, c'est à double tranchant, soyons vigilants, tout ce que nous voyons, entendons, l'ennemi utilise ces canaux-là pour semer son message. Donc Samson, lui, clairement, il se laisse influencer par l'esprit du monde et il veut épouser une fille des Philistins. Il en parle à ses parents qui ont la bonne attitude. Déjà, ils voient un danger, ils disent « Samson, c'est une fille des Philistins, c'est un ennemi du peuple de Dieu ». C'était quand même assez gros comme histoire, ce n'était pas la bonne personne. Et puis, ils l'orientent, mais ils lui disent « Mais est-ce que tu ne peux pas chercher plutôt parmi les filles d'Israël, les filles du peuple de Dieu ?» Mais une personne amoureuse ne voit pas les pièges, comme Samson. Elle n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. Samson n'écoute pas ses parents. Elle se fie à ses émotions. Elle pense qu'elle fera mieux que ceux qui ont échoué avant lui. Et il va tenter aussi de réussir. Et ça, c'est un excès de confiance. Donc Samson va confirmer son choix. Il ne va pas se remettre en question. Il va simplement suivre la voie. Et il a une simple et bonne raison, on l'a lu, deux fois c'est dit, parce qu'elle me plaît. Voilà. Sa seule et unique raison, c'est parce que cette fille me plaît et je vais aller me marier avec elle. Donc, à ce moment-là, puisqu'il se fie uniquement à son intuition, qu'il ne cherche pas la volonté de Dieu, bien Dieu nous laisse libres et responsables, il va faire son pas, il va aller vers cette femme, mais il ne va pas faire la volonté de Dieu, il va plutôt faire ce qui lui plaît. Et regardez, il y a un verset dans la parole, dans Romains 15:1, qui nous avertit là-dessus. Il dit « Nous qui sommes forts ». Déjà, Paul établit que dans l'Église, il y a des chrétiens forts et des chrétiens faibles. Et il dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas », et la fin du verset, « et ne pas chercher ce qui nous plaît ». Et on voit que Samson, il fait l'inverse. Il cherche ce qui lui plaît, mais si vous voulez être fort spirituellement, cherchez ce qui plaît à Dieu. Et ça, c'est un autre niveau spirituel que vous n'atteindrez jamais si vous cherchez toujours ce qui vous plaît, vous ne cherchez pas ce qui plaît à Dieu, ben vous ne grandirez pas spirituellement, vous n'atteindrez pas la maturité. Ce n'est pas possible, vous ne serez jamais des chrétiens forts. Donc, néanmoins, Samson a conservé une force extraordinaire au verset 5 et 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. On voit que Samson est revêtu d'une force extraordinaire parce qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui. Donc Samson, néanmoins, a une force surnaturelle, et le Saint-Esprit peut nous donner une force surnaturelle pour vaincre l'adversaire. Vous voyez dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On va prier le Seigneur quelques instants. On a vu à travers ces quelques exemples de la vie de Samson combien il a été manipulé, combien il a bien commencé dans les voies du Seigneur, mais qu'à un moment donné, il s'est écarté de ce que le Seigneur avait prévu pour sa vie. Combien il y avait des promesses qui étaient là pour sa vie, mais que finalement, ces promesses ne se sont pas toutes accomplies à cause de sa désobéissance, malgré qu'il a conservé une certaine force. En fait, cette force était physique. On peut dire qu'il était fort sur le plan physique, mais faible sur le plan spirituel. Et frères et sœurs, il nous faut, nous, être forts sur le plan spirituel et chercher non pas ce qui nous plaît, mais chercher ce qui plaît à Dieu en priorité. Merci encore pour ta parole qui nous montre le chemin de l'obéissance, de la consécration, de la foi. Et nous voulons, Seigneur, être de ceux qui prennent au sérieux ta parole et qui mettent en pratique tout ton conseil. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire encore plus près de ton cœur, de nous permettre de progresser dans tes voies, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de tout ce que tu veux nous enseigner. Et merci encore pour ta parole qui nous montre aussi le chemin à suivre pour être des modèles, pour être des lumières dans ce monde, pour briller de ta gloire et annoncer les paroles que tu veux. Et nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen.